chers frères et sœurs, chers amis, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens. La semaine dernière, nous avons considéré une situation conflictuelle dans cette église de Philippe. Et je crois que ça nous concerne tous parce que nous soyons, soit dans les situations que nous vivons, au travail, à la maison, parfois à l'église, nous pouvons avoir et nous avons peut-être déjà eu des relations parfois un peu tendues avec les autres. Et l'apôtre Paul a traité cette question dans l'église de Philippe. Et on pense peut-être que tout ce qu'il a écrit, on l'avait dit la semaine dernière, que tout ce qu'il a écrit depuis le chapitre 1, fin du chapitre 1, où il parle de marcher d'une manière digne de l'évangile, avec une même foi, une même âme, et puis chapitre 2, où il parle de ne pas être animé d'un esprit de parti, mais par humilité, de regarder les uns, les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est une préparation à ce qu'il allait dire concernant ces deux femmes, Évodie et Syntyche, qu'il exhorte particulièrement à se réconcilier. Il dit, j'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche, verset 2 du chapitre 4, à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et donc, il avait parlé de manière, on pourrait dire, particulière à ces deux personnes. Il avait même adressé une recommandation à une troisième personne pour les aider dans cette situation. Et puis là, au verset 4, que nous allons considérer aujourd'hui, il parle, on pourrait dire, à plusieurs personnes, à l'Église. Après avoir dit « J'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche » et trois fidèles collègues, oui, je te prie de les aider. Verset 4, nous allons lire, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu » par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jusque-là, notre lecture ce matin. Nous prions. Seigneur, nous te demandons que tu nous aides par ton Esprit Saint à recevoir ta parole et que nos cœurs puissent être soumis aussi à ce que tu veux nous enseigner. Nous te prions d'illuminer nos pensées, de faire taire tout ce qui peut être un obstacle et de nous rendre attentifs et réceptifs à ta parole pour la gloire de ton nom. Amen. Quel est le plus grand besoin de l'Église dans cette situation, on pourrait dire, conflictuelle? On pourrait dire c'est l'unité, tout. Je crois que le verset 7 nous donne un petit peu la clé vers laquelle l'apôtre Paul veut arriver. Qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Autrement dit, le but qu'il recherche ici, c'est que la paix de Dieu règne dans les cœurs. Comme il avait dit aux Colossiens, vous vous rappelez que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs ici. Et là, il dit à l'Église, voilà ce que vous devez faire. Et il dit, et alors, voilà le résultat, voilà ce qui va en résulter. C'est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Autrement dit, il dit à l'Église que votre plus grand besoin, c'est quoi? Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de conflit, parce que malheureusement, quand il y a des hommes, il y aura des conflits. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de situation difficile. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'épreuves. Mais votre plus grand besoin, c'est que vos cœurs et vos pensées soient gardés dans la paix de Dieu. Que la paix de Dieu, qui est au-dessus de tout ce que vous pouvez penser, imaginer, de tous les débats intellectuels que vous pouvez avoir, eh bien, garde vos cœurs, maintienne, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On sait bien que les situations, n'est-ce pas, ne se règlent pas du jour au lendemain. Hein, ça n'arrive jamais comme cela. Si vous croyez cela, c'est que vous n'avez jamais eu de problème, ou alors que, voilà, hein, comme j'ai dit la dernière fois, on vit sur une autre, sur un nuage ici. Donc il est important de savoir comment se conduire au sein des difficultés, des situations difficiles, et de manière générale au sein de toutes les circonstances que peut traverser le chrétien. Alors troubler les cœurs par les circonstances, on pourrait dire ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Rappelez-vous des prières de Jésus, que votre cœur ne se trouble point. Il avait annoncé des temps difficiles à ses disciples, et puis tout de suite après il leur dit, mais que votre cœur ne se trouble point. Parce que le but de l'ennemi c'est toujours de troubler le cœur des enfants de Dieu, à partir des situations difficiles qu'ils peuvent traverser. Donc ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais donner la paix au sein même des circonstances, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que nous pouvons voir ici. Alors le titre du message ce matin, c'est « Pour que la paix de Dieu nous garde ». Pour que la paix de Dieu nous garde. Il y a trois choses, trois résolutions pour la paix, on pourrait dire, hein, on pourrait appeler ça comme ça, que nous voulons voir ici. Nous allons considérer que deux ce matin, mais le verset 4 qui parle du fait de se réjouir dans le Seigneur. Le verset 5 qui parle de la douceur, hein, qui dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et puis le verset 6 et 7, 6 particulièrement, qui parle de ne pas s'inquiéter, de ne s'inquiéter de rien, mais de faire connaître les besoins à Dieu. On pourrait dire que ce sont les trois résolutions que le chrétien doit prendre. Et le verset 7 conclut, « Et alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, nous allons considérer, nous arrêter seulement au verset 4 et 5 ce matin. Donc, pour que la paix de Dieu nous garde, premièrement, il faut choisir de se réjouir continuellement dans le Seigneur. Il faut choisir de se réjouir continuellement dans le Seigneur. Regardez le verset 4. L'apôtre Paul, après avoir parlé à Évodie, à Saint-Tiche et à ce frère pour les aider, dit à l'Église, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. La deuxième partie de la phrase est au futur, hein, parce que normalement, le texte original dit « Et je dirai encore, je redirai. Hein, » C'est-à-dire que s'il y a encore d'autres choses, je dirai la même chose. « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Donc voilà comment l'Église est appelée à se comporter dans cette situation et dans toutes les situations qu'elle connaît. Il revient donc, l'apôtre, ici, une fois de plus, sur ce thème de la joie, on pourrait dire, avec une forte insistance ici. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Il avait déjà dit cela, si vous vous souvenez, au chapitre 3. Regardez le chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit? Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Qu'est-ce qu'il écrit? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il répète donc encore cette exhortation ici. Mais encore, si on lit un peu la lettre, un peu plus, on voit qu'il parle partout, hein. Il y a le thème de la joie qui surgit. En Philippiens chapitre 2, verset 17, regardez, au chapitre 2, verset 17, il dit « Et même si je sers de libation pour le sacrifice, de ce qui sera versé, d'offrande pour le sacrifice, il dit, pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouirai avec vous tous. » Verset 28, de la même, il dit, même chapitre, il dit, « J'ai donc envoyé avec autant d'empressement, il parle d'Épaphrodite, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc avec une joie entière et honorée de tels hommes. » Non seulement il parle de sa propre joie à lui, le fait qu'il se réjouisse, mais il invite aussi le chrétien, les croyants, à se réjouir de tout, se réjouir de recevoir Épaphrodite, hein, de l'accueillir avec joie. Ici, donc cette insistance sur cette réjouissance dans le Seigneur montre que ce qu'il demande à l'Église doit être observé avec le plus grand soin. Il ne dit pas, bon, si vous y pensez, réjouissez-vous. Non, c'est un commandement et une ordre qu'il donne, et l'Église doit être diligente dans l'obéissance à cet ordre-là. Et cette insistance montre aussi la lenteur du chrétien, n'est-ce pas, à se réjouir dans le Seigneur. Chaque commandement que la Bible nous donne met en évidence, je crois, notre tendance naturelle à aller dans le sens opposé. Si la Bible dit « réjouissez-vous dans le Seigneur », c'est que on n'a pas cette tendance naturelle de se réjouir dans le Seigneur. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est surnaturel, c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu met dans le cœur. Mais on a tendance plutôt à, voilà, grommeler, à murmurer, c'est ce qu'il avait dit au chapitre 2, hein. Faites tout sans murmure ni hésitation, parce qu'on murmure, on hésite quand on doit faire les choses. On les fait, mais on murmure et on hésite. Alors le croyant a besoin d'entendre vraiment cette insistance-là, de se réjouir continuellement dans le Seigneur. Mais ce que l'on voulait, je voudrais souligner ici, c'est que se réjouir ici est un choix que doit faire le croyant. Ce que l'apôtre Paul dit ici, il dit « réjouissez-vous, vous devez choisir de vous réjouir, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. » Donc se réjouir est avant tout une question d'obéissance et non d'émotion ou de sentiment. Il dit « mais je me sens pas joyeux, je ne me sens pas heureux ainsi. » Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit, il dit pas « sentez-vous joyeux, éprouvez des sentiments ». Ce n'est pas ce qu'il dit, il dit « obéissez, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Donc c'est un commandement qui est donné ici, et non la recherche d'une émotion. Le monde aujourd'hui, n'est-ce pas, subit le diktat de l'émotion. On vit avec les réseaux sociaux surtout, beaucoup dans l'émotion. Et le mot est vraiment sur toutes les lèvres, et il est appelé dans toutes les circonstances. Si un sportif fait un exploit de haut niveau, on dit « oh, l'émotion est grande ». Quelle émotion on vient de vivre avec ce coureur qui vient de battre le record du monde. Et on invite les gens à avoir de l'émotion. Mais quand il y a une catastrophe, un attentat sanglant, et l'une des premières phrases qui sort, et quelqu'un faisait remarquer cela, c'est « l'émotion est à son comble » ou « l'émotion est grande ». Il y a un meurtre dans un village, eh bien l'émotion est grande dans ce village. Et on commence toujours par l'émotion. D'accord ? On suscite l'émotion. Les médias mettent en avant l'émotion ici. La Bible ne met pas en premier lieu l'émotion. Et quand elle dit, quand l'apôtre Paul dit ici, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, il ne dit pas d'éprouver une émotion, il dit d'abord de chercher à obéir à un commandement. Et donc cela suppose que je vais devoir réfléchir à ce que cela veut dire pour soumettre mon cœur et mon corps à ce que cela veut dire. Okay. L'appel à l'émotion, disait quelqu'un, est un appel à réagir plutôt qu'à agir. Et on se laisse guider par les événements au lieu de se laisser guider par la réflexion. Ici. Et l'Évangile nous appelle à réfléchir. Je suis dans quelle situation ? Eh bien, il faut que je réfléchisse à ce que la parole de Dieu me dit et que je cherche comment je peux la mettre en pratique. Donc, se réjouir concerne donc notre attitude et ce que nous allons choisir de faire dans une situation donnée. Donc il arrivera certainement qu'on soit froissé ou qu'on soit déçu par des gens. La question est quelle décision je vais prendre dans cette situation. Est-ce que je vais m'arrêter à la situation, puis je vais commencer à grommeler, dire du mal de la personne, ou ne pas lui parler, ne pas lui dire bonjour, ne pas etc. Ou est-ce que je vais choisir ce que l'Évangile me commande de faire ici? Est-ce que je vais chercher, malgré le fait que je sois froissé, comment je peux me réjouir dans ce que le Seigneur a fait? Allons-nous obéir au commandement ou allons-nous laisser nos ressentis ou nos sentiments dicter notre comportement? On a dit ça la semaine dernière, hein. C'est comme ça que je ressens la chose. Et nous marchons en fonction de ce que nous ressentons, de l'émotion que cela a produit chez nous. Mais Paul dit non. Il dit à l'Église, choisissez de vous réjouir dans le Seigneur. Donc l'exemple de Paul dans cette lettre nous montre ce que cela veut dire. Lui, il a fait le choix de se réjouir plutôt que de se laisser abattre par les circonstances. Rappelez-vous que lorsqu'il écrit cela, les gens auraient pu dire, mais Paul, ouais, tu dis ça, mais toi, tu es bien, tu es chez toi, tu es marié, il ne l'était pas. Tu es libre de bouger comme tu veux, il ne l'était pas, il était en prison, d'accord? Tes enfants sont bien, il n'en a pas, d'accord? Il n'a rien. Lorsqu'à la fin de sa vie, il écrit à Timothée, il lui dit, apporte-moi le manteau que j'ai oublié quelque part. Il y a un manteau, voilà, toute sa garde-robe, un manteau, quoi. Hein, tout ce qu'il avait. Et puis, il demande quelques parchemins. Il n'avait rien, il est en prison. Et qu'est-ce qu'il écrit à cette église? Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il est en prison injustement. Parce que quelqu'un a cru qu'il avait fait rentrer un grec dans le temple. Rappelez-vous de ça. Acte chapitre 21, il a été traîné, presque battu à mort. Il a été sauvé in extremis, n'est-ce pas? Et puis ensuite, il y a eu des complots contre lui. On l'a transféré, il est parti à Césarée, il est resté 2 ans à Césarée. Après, il en a demandé à César, donc on l'a envoyé à Rome. Il a traversé difficilement jusqu'à arriver à Rome. Rappelez-vous que le bateau a fait naufrage. Il arrive à Rome et il est en prison. La Bible dit qu'il a enchaîné un soldat. Et puis, il attend, il est incertain sur son sort. Il dit, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais on sait qu'il attend son exécution. Il est sous l'empereur Néron. Et il écrit 16 fois, il fait référence à la joie dans cette lettre, 16 fois. Et les premiers mots qui sortent de sa bouche quand il écrit à l'église de Philippe, regardez, au chapitre 1, verset 3, il dit, je rends grâce à mon Dieu après avoir fait juste les salutations. C'est l'action de grâce. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie. Il dit, quand je prie pour vous, je manifeste à Dieu ma joie pour la part que vous prenez à l'évangile. Il est là, il dit à ses Philippiens, mais vous savez, il y a des gens qui prêche l'évangile par esprit de parti. Même, ils veulent me susciter des embûches dans mes liens. Non seulement je suis déjà enchaîné, mais ils veulent encore me faire souffrir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils prêchent Christ par esprit de dispute et par envie dans le but de me susciter des tribulations. Et il ajoute, verset 18, regardez quand il dit ça, chapitre 1, verset 18, il dit ceci, il dit... qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement concernant ces personnes, Christ n'est pas moins annoncé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. D'accord? Donc, ce qu'il commande aux Philippiens de faire, ce n'est pas quelque chose qu'il ne fait pas. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qu'il ne vit pas. Il donne l'exemple même de cela. Et il dit, il montre que c'est possible. Il dit, même quand l'évangile est prêché avec une telle intention dans le but de me faire du tort, il dit, je m'accroche à une chose. L'évangile est prêché. Christ est entendu. Alors là, je me réjouis. Peu importe par quel moyen ça passe, je me réjouis. Et il dit, et s'il fallait encore, eh bien, je vous le dis, je me réjouirai encore. Et c'est à cette attitude, c'est cette manière qu'il exhorte, c'est cela qu'il exhorte les croyants de Philippe et puis nous-mêmes aussi à faire, à se réjouir avant tout et à considérer cela non pas comme une question de sentiment ou d'émotion, mais comme le fait de se soumettre à ce qui est la volonté de Dieu, que l'on se réjouisse dans les situations, à travers les situations que nous traversons. Toujours chercher comment je peux me réjouir. Rappelez-vous quand il était à la naissance de cette église, même de Philippe, à Philippe, emprisonné, qu'est-ce qu'il faisait avec Silas? Ils ont, dans la nuit, chanté les louanges du Seigneur. La Bible dit que les prisonniers les entendaient. D'accord? Et donc, ils ont loué Dieu. Ils ont cherché comment ils pouvaient se réjouir en Dieu, faire venir à son esprit tout ce qui concerne Dieu. Et donc, Je voudrais souligner aussi que la réjouissance qui est commandée ici, c'est, elle est relationnelle et non circonstancielle. Vous voyez, c'est pas, il dit pas que suivant les circonstances, vous allez pouvoir vous réjouir en Dieu. Non, il dit, réjouissez-vous, sans mettre de conditions à côté, réjouissez-vous toujours, dit-il, dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur qu'ils sont appelés à se réjouir. Il dit pas simplement, réjouissez-vous, soyez contents, soyez gais, soyez joyeux, riez, on entend souvent rire, c'est équivalent à manger un bon beefsteak, alors il faut rire dans la vie parce que ça donne des calories, ça porte. C'est pas ce qu'il dit ici. D'accord? Il dit que se réjouir consiste à entretenir une relation intime avec Dieu. C'est dans le Seigneur qu'il faut se réjouir. C'est-à-dire qu'il faut chercher et peser tout ce que l'on a, tout ce que l'on est et tout ce que l'on aura dans le Seigneur. C'est comme on a dit ce matin, Frère nous a entretenu sur le fait que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand on lit cela, on ne doit pas lire en passant, on doit se dire, mais qu'est-ce que cela veut dire que notre vie est cachée avec Christ en Dieu? Qu'est-ce que cela change dans ma vie? Qu'est-ce que cela a produit? Quelle sécurité cela me donne? Et je me réjouis dans le Seigneur en pensant au Seigneur et à ce qu'il fait. Quand la situation est conflictuelle, difficile, il dit, au lieu de regarder à la situation, qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes et tu cherches Christ. Comment tu peux te réjouir en lui? C'est ça qui est la chose la plus importante ici. Le dictionnaire Larousse donne de la joie, le sentiment de plaisir, de bonheur intense qui est caractérisé par sa plénitude, sa durée limitée, éprouvée par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie d'être satisfait. Et donc la joie, on peut voir ici qu'elle est en étroite corrélation avec la satisfaction des désirs ou la perspective même d'une satisfaction des désirs. Et donc pour la plupart des gens, la joie est intimement liée aux circonstances. Et donc les hommes recherchent la joie ou son expérience toujours en cherchant à améliorer leurs circonstances. Si on pense que la joie dépend des circonstances, notre focalisation sera toujours sur les circonstances. Et je vais essayer de les changer. Je ne suis pas marié, je serai joyeux si je suis marié. Je n'ai pas d'enfant, je serai heureux si cette situation change, si j'ai des enfants. Je n'ai pas acheté une maison, je serai joyeux si j'ai acheté une maison. Je n'ai pas ce travail, je serai joyeux si j'ai ce travail. Tu vois? Et parfois, quand on est dans une église, on fait la même chose. Je ne me sens pas joyeux, alors je vais changer d'église, je vais changer la circonstance. Et ce que Paul dit ici, il dit, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Au lieu de regarder les circonstances, il faut regarder à Jésus-Christ en tant que croyant. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Okay. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Lui, quand il reçoit un don de l'église de Philippe, il écrit cette lettre aussi pour remercier les Philippiens du don qu'il lui avait fait. Quand il reçoit un don de l'église de Philippe, au chapitre 4, verset 10, même chapitre, regardez, il dit, j'ai éprouvé une grande joie. Il dit pas pour le don que vous m'avez envoyé. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Il est content parce qu'il a reçu un don de la part des Philippiens. Il dit pas, ouais, j'ai reçu votre don, mais bon, ça me fait ni chaud ni froid. C'est pas ce qu'il dit. D'accord? Il est content d'avoir reçu. Mais il dit, mais même quand je me réjouis pour le don que vous avez envoyé, je le place dans le cadre du Seigneur. C'est dans le Seigneur que je me réjouis. Il dit, je vois quelles sont les connexions de cela avec Christ. C'est parce que vous participez à l'œuvre de Christ que vous m'envoyez ce don. C'est parce que vous avez à cœur l'évangile que vous m'envoyez ce don. Donc, il pense à toutes ces choses et puis il se réjouit dans le Seigneur. Même quand il reçoit quelque chose pour subvenir à ses propres moyens. Regardez avec moi 1 Pierre chapitre 3, versets 3 et 6. 1 Pierre chapitre 3, 3 et 6. L'apôtre Pierre encourage des chrétiens qui sont dans la souffrance et il leur dit ceci. 1 Pierre chapitre... pas chapitre 3, chapitre 1, pardon. 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 6, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Et quand il dit ceci, il faut penser qu'il est en train de focaliser la pensée de ses lecteurs sur ce qu'il est en train de dire. Hein. Il tire la pensée vers cela. Hein. Il dit, je relis, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans ces derniers temps. » Verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie. » Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous voyez un peu l'équilibre qu'il y a ici. Il dit, maintenant vous êtes dans la souffrance, dans la tristesse, ça ne va pas durer longtemps. Et ça c'est maintenant. Mais pensez à l'héritage qui vous est réservé dans les cieux, pour lequel Dieu vous garde par sa puissance. Et il dit, c'est là ce qui doit faire votre joie. C'est pas la difficulté de maintenant qui doit constituer votre tristesse. C'est tout ce que vous avez en Christ qui doit constituer votre joie. Et c'est cela que l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Philippe aussi à faire. Au chapitre 1, verset 8, il parle de cet amour qu'on a pour Christ et qui est lié à la joie. Il dit, verset 8, « Vous l'aimez sans l'avoir vu et vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. » On voit ici le lien étroit entre l'amour pour le Seigneur et la joie. Celui qui aime vraiment Christ, qui recherche Christ, il éprouve évidemment une grande joie dans le Seigneur, parce qu'il y a, dit le psaume, le psalmiste, d'abondantes joies devant ta face et des délices éternels à ta droite. Et il dit encore, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand on tourne vers lui, ouais, c'est une volonté, c'est un choix que l'on doit faire de considérer Jésus-Christ, de tourner les regards vers lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il nous faut méditer vraiment sur ce qu'il est, ce qu'il a fait, sur l'œuvre de la croix. Il faut chanter même ces choses. L'apôtre Paul en prison, il faisait quoi? Il chantait. Les psaumes nous invitent souvent à chanter. Et chanter, c'est pas garder la bouche fermée. Parce que quand l'apôtre Paul chante, et s'il la chante en prison, la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Je sais pas pourquoi il y a ce détail. Parce qu'après les prisonniers, il y a le geôlier qui s'est converti, mais lui, il dormait peut-être à ce moment-là. C'est le tremblement de terre qui l'a réveillé, mais les prisonniers les entendaient. Peut-être pour nous dire que quand ils chantaient aussi à haute voix. À haute voix. Dans un autre domaine, dernièrement, j'ai eu l'occasion de parler de la reconnaissance quelque part dans une église et on peut remarquer que quand Jésus parle, par exemple, de ces 10 lépreux, vous vous rappelez, qui avaient été guéris de la lèpre, et puis qu'il dit qu'il y a un seul, c'est un Samaritain, qui est revenu et qui a fait quoi? Et qui a rendu gloire à haute voix. Si vous lisez le texte, je le dis. Il a rendu. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu à haute voix? Il a donné gloire à Dieu à haute voix. Il a dit la chose. Le fait de dire, c'est quelque chose. On peut penser que les autres qui avaient été guéris, ils ont pensé vraiment, c'était super, ah, je remercie Dieu de l'avoir fait, dans leur pensée. D'accord? Quelqu'un disait, on peut pas être guéri de cette manière-là sans avoir une pensée pour le bienfaiteur. Et il y a un homme qui, et on raconte cette histoire qui s'est produit, je ne me rappelle plus la, dans quelle année, mais sur un lac aux États-Unis où il y a eu un naufrage et il y a un jeune homme qui était un étudiant qui était investi dans ses études et qui est venu, qui a nagé, a fait plusieurs fois les retours entre la berge et le lieu de naufrage pour sauver des gens. Il a fait tellement qu'il a presque perdu sa vie. Il a pas pu terminer ses études. Il a dû tout arrêter parce que il a subi des séquelles tout le reste de sa vie pour avoir sauvé des gens. Et à la fin de sa vie, il était donc hospitalisé, je crois, en chaise roulante, enfin, assez gravement atteint. Et quelqu'un lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il lui reste de tout cet acte, quelle est la chose la plus marquante de tout cet acte? Et il a dit, la chose qui me marque le plus, c'est que pas une seule personne est revenue pour dire merci, juste merci. Il avait sauvé, je ne sais plus, une quinzaine ou une douzaine de personnes. Il dit, pas une seule personne est revenue pour dire merci. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ce qu'on ne dit pas, quelqu'un a dit que ce qu'on ne dit pas, on ne le retient pas. Et ici, quand on parle de, quand on parle de chanter, quand Dieu dit chanter, il dit chanter. Maintenant, on ne chante plus. On écoute beaucoup de musique, mais on ne chante plus. On ne se réjouit plus dans le Seigneur en chantant ses merveilles, en disant les vérités de l'Évangile. Il nous faut être conscient de cela. Je le vois parfois chez moi-même. On a de plus en plus de mal à chanter. Parfois, on n'a même pas de cantique. D'accord ? On n'a même pas de cantique à la maison. Et nous sommes appelés à chanter. La Bible nous dit jamais. Il n'y a aucun verset qui dit écouter de la musique. Aucun. J'ai cherché, il n'y en a aucun. Mais vous pouvez trouver des versets qui disent chantez à l'Éternel. Dites avec votre bouche son salut. Chantez-le. D'accord? C'est une manière que l'on a de se réjouir en Dieu. Lorsque les circonstances difficiles sont là, eh bien, comme l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il dit les louanges de Dieu. Il les chante. Il les entend. Les autres les entendent. Et son cœur se réjouit en Jésus-Christ. C'est ainsi que l'on peut se réjouir. Et se réjouir aussi consiste à s'attacher aux paroles de Dieu. Jésus lui-même, il dit, maintenant je vais à toi dans sa prière dans Jean 17. Je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Autrement dit, ce qu'il dit est fait pour que ses disciples aient une joie parfaite. Donc les paroles même de Christ sont celles sur lesquelles nous devons focaliser notre attention parce que elles procurent de la joie. Elles sont données pour procurer de la joie. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Autrement dit, ce qu'il dit a pour vocation à nous amener à nous réjouir aussi en lui. Notons aussi l'étendue de cette réjouissance. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il ne dit pas de temps en temps, quand vous avez envie. Ça dépend avec qui vous êtes, qui est en face. Ou ça dépend quelles circonstances. Il dit toujours, réjouissez-vous toujours. Et cela implique que la nature des circonstances n'ont rien à voir avec le fait de se réjouir ou que les personnes qui sont en face de nous, avec lesquelles nous avons une difficulté, n'ont rien à faire avec le fait de se réjouir. Et c'est ce que l'apôtre Paul montre ici. Hein, quand il reçoit le don, il dit « Je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. Je me réjouis dans l'un et je me réjouis aussi dans l'autre. » C'est ce qu'il est en train de dire. Quelqu'un a dit ceci, trouvé intéressant, il dit que le calendrier des pêcheurs n'a que quelques jours de l'année marqués jours fériés, jours de fête. Il dit, mais le calendrier du chrétien, chaque jour est marqué par la main de Dieu comme un jour de réjouissance. Il dit donc que le chrétien ne devrait pas avoir de jour où il ne se réjouit pas. D'accord? Tous les jours, nous devons chercher comment nous pouvons nous réjouir afin d'obéir à ce commandement, donc faire ce choix. Ainsi, pour que la paix de Dieu nous garde, il faut choisir de se réjouir systématiquement et continuellement en Jésus-Christ. Deuxième vérité que j'aimerais souligner, deuxième résolution, c'est que pour que la paix de Dieu nous garde, il faut agir de manière à se distinguer, à être distingué par sa modération. Que votre cœur, verset 6, 5 dit, que votre cœur
Que votre douceur, pardon, soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. On pourrait dire que la première résolution concernait la relation du croyant avec Dieu, parce qu'il est question de se réjouir dans le Seigneur, d'entretenir cette relation, de méditer sur les choses que nous avons en Christ. Mais la deuxième exhortation de Paul ici à l'Église a trait à ce qui nous caractérise vraiment dans nos rapports les uns avec les autres. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Notez que l'apôtre Paul ne dit pas que les autres, ce que les autres doivent être vis-à-vis de nous ici, mais ce que je dois être vis-à-vis d'eux. Comment je dois être connu d'eux. Ce que mes paroles, mes actes et mes attitudes laissent comme impression auprès d'eux. Alors, je ne sais pas comment vous aimeriez être connu des autres. Peut-être comme un grand intellectuel ou je ne sais pas moi, quelqu'un qui est fort physiquement. Essayez d'imaginer, tiens, si vous posez la question, là, pensez ça un petit peu dans votre tête, quelques secondes. Comment j'aimerais être connu de tous les hommes? C'est-à-dire, s'il y a une chose que je voudrais qu'ils retiennent de moi, c'est quoi? Et Paul dit ici, il y a beaucoup de choses, mais l'une des choses qu'il dit ici à l'église de Philippe, c'est que votre douceur doit être connue de tous les hommes. L'impression juste que le croyant doit laisser dans ses rapports, dans ses entretiens avec les autres, c'est la douceur. Mais qu'est-ce que la douceur indiquée, qui est indiquée ici? Le mot qui est traduit par douceur est un mot qui semble être extrêmement difficile à rendre en français ou dans les autres langues. Donc on a mis « douceur a été choisi », mais un autre mot aurait pu être mis à la place. Il est utilisé 5 fois dans le Nouveau Testament. Parfois, il est traduit par modéré, par doux, par indulgent, par exemple. Lorsque l'apôtre Paul parle du caractère des anciens, en 1 Timothée 3, il dit que au contraire, il doit avoir l'esprit, il doit être indulgent. L'ancien doit être indulgent. D'autres traductions disent, au contraire, il doit avoir l'esprit pacifique et conciliant. Il fuit les polémiques et les controverses. Donc, vous voyez déjà, tout ça, c'est pour juste expliquer le mot. Mais si vous cherchez, vous regardez beaucoup de traductions, vous allez trouver plein avec des mots différents. Et même en anglais, c'est pas les mêmes mots qui sont utilisés en français. Et le commentateur John MacArthur dit ceci, il dit que le mot original est bien plus riche que ce qu'un mot français ne peut communiquer, de sorte que les commentateurs et les versions bibliques le rendent de manière assez variable. Parfois, il est traduit « nature douce et raisonnable »,« générosité »,« bonne volonté »,« amabilité »,« magnanimité »,« charité envers les fautes des autres »,« miséricorde envers les échecs des autres »,« indulgence face aux manquements des autres »,« clémence »,« grand cœur »,« modération »,« tolérance » et « douceur ». Il dit tout ça représente quelques tentatives pour saisir la riche signification du terme grec qui est traduit ici par le mot douceur. Et je crois que quelqu'un a dit ceci, dit une manière peut-être de le contenir serait de dire que c'est le contraire de l'esprit de discorde et de recherche de soi. C'est cette modération qui va faire qu'on va chercher ce qui est juste, mais qu'on ne va pas insister au-delà de toute mesure pour avoir raison. Lorsqu'il y a un conflit entre des personnes, quelle est la chose que l'on cherche le plus? C'est à avoir raison. Et ce que l'on voudrait que les autres sachent de nous, c'est que l'on a raison. Et on va chercher des partenaires pour faire prendre fait et cause pour nous, ici. Et la douceur qui est évoquée ici, bien sûr, c'est pas le fait de parler doucement, et puis de ne pas réagir, on dit il est doux, d'être une serpillière, c'est pas ça qu'il est question ici. C'est quelqu'un qui a du caractère, oui, qui va faire ce qui est juste, mais qui va être extrêmement équilibré dans ce qu'il va dire et dans ce qu'il va faire. Et donc la proximité, je crois, avec la situation d'Évodie et Saint-Tiche, nous permet de comprendre que ce que Paul dit ici, c'est que l'Église, dans son attitude, doit chercher à être modérée. C'est pour ça que j'ai appelé ça agir de manière à se distinguer par sa
modération, par le fait de ne pas mettre ses droits en premier, de ne pas insister systématiquement sur ses droits. Ici, donc, ça veut dire quelle évidence caractérielle je laisse paraître dans les relations que j'ai avec les autres. Est-ce qu'on peut dire, oui, lui, quand il discute, il faut toujours qu'il ait raison. Toujours. Il ne lâche pas l'affaire, hein, tant qu'il n'a pas gagné ici. Est-ce que je cherche toujours cela? Ou est-ce que je me fâche si mon idée n'est pas reçue, si mon droit n'a pas été reconnu? Tous les hommes, dit l'apôtre Paul ici, doivent connaître chez le chrétien ce caractère qui est traduit par douceur ici. Donc il ne s'agit pas bien sûr de forcer une attitude au temple et puis de se lâcher à la maison, parce que c'est tous les hommes qui doivent le connaître. D'être ainsi avec les chrétiens parce qu'on arrive encore à se tenir bien avec eux, et puis quand je suis au travail, eh bien voilà, je me lâche et je réagis durement, ou avec le voisin, ou avec les inconvertis. Donc le témoignage laissé doit être toujours le même, que ce soit avec les croyants, que ce soit au foyer, ou que ce soit à l'extérieur. C'est-à-dire, il doit être connu pour ça. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc cela questionne notre manière de présenter l'évangile, ou de débattre même aussi avec les autres, avec les incroyants, ou entre croyants. On peut avoir l'attitude qui consiste à chercher à démolir les autres à coup sûr, à coup d'arguments théologiques. On peut même parvenir à mettre en déroute théologiquement quelqu'un et en même temps manquer le témoignage de la douceur. Cela arrive parfois quand on discute parfois avec le témoin de Jéhovah, on peut être parfois virulent dans la manière de présenter les choses, n'est-ce pas? On insiste parce qu'on sait que la Bible dit la vérité, mais à côté de cette insistance, il faut un équilibre, c'est-à-dire qu'il faut que quand la discussion est terminée, il y ait quelque chose qui reste. Quelle impression j'ai laissé? Est-ce d'un orgueilleux théologique qui va imposer un truc, ou est-ce que, à dire, c'est vrai, je ne suis pas d'accord avec cet homme-là, mais je sens chez lui une maîtrise, une douceur, quelque chose. Cette femme-là, c'est pareil pour les femmes. Okay. J'ai entendu cette histoire dans une prédication concernant ce caractère. Le prédicateur disait que un autre prédicateur avait eu un débat, je ne sais plus, dans un lieu public, ça avait été filmé avec quelqu'un, une journaliste, je crois, sur des points théologiques, des arguments, et vraiment, il a démoli tous les arguments de cette journaliste qui était non chrétienne. Il l'a terrassé, si vous voulez, théologiquement à coup d'arguments. Et vraiment, il a point par point, il a pu démontrer. Et le soir, il rentre chez lui avec l'enregistrement de l'entretien, et il montre à son fils et puis lui dit, dis-moi ce que tu penses de cela. Et son fils regarde et puis il reste calme, quoi. Il dit, mais dis-moi vraiment ce que tu penses. Et le fils lui dit, tu as gagné sur tous les arguments, mais tu ne lui as pas montré Jésus-Christ. Comprenez ça? Il dit, tu as gagné sur tous les arguments, mais tu ne lui as pas montré Jésus-Christ. Techniquement, argumentairement, tu avais raison. Mais était-ce là ce que ça veut dire, hein, le plus important? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est resté? Et l'image de Christ n'est pas restée. Vous voyez? C'est ça qui est que ce mot veut dire. Et quand il y a des situations particulières, conflictuelles, qu'est-ce qui reste? Quelle impression il me reste? Ou quelle impression il reste aux autres de mon intervention? Alors ça me fait penser à et ce que je dis, je me sens le premier concerné par cela, chers frères et sœurs. Quand on parle avec nos enfants, parfois on peut présenter durement la vérité de l'évangile. C'est la vérité, c'est vrai. C'est la vérité de Dieu, il faut la dire. Mais l'impression qui reste, ça n'est pas Christ parfois, c'est la justesse de l'argument, la dureté de la vérité. Et Paul dit, il dit pas que votre connaissance théologique soit connue de tous les hommes, que votre rectitude doctrinale soit connue de tous les hommes. Il faut ces choses. Mais il dit, vous avez discuté, l'impression que doit rester les gens, c'est
caractère. Pas la connaissance, pas la compétence, le caractère. Cela va être beaucoup plus important que le reste. Et c'est pour cela que quand il parle des choix des diacres et des anciens, vous regardez, il ne parle pas de compétence. Il ne dit pas qu'il ait fait 3 années d'études par ceci, 25 ans, et c'est important de les faire. Il ne dit pas qu'il faut des connaissances particulières. C'est important d'avoir des connaissances, évidemment. Mais il parle toujours de caractère. Qu'il soit mari d'une seule femme, ni adonné au vin, doux, indulgent, etc. Vous voyez, c'est que des caractères. C'est que des caractères. Parce que ce qui intéresse Dieu le plus, ce n'est pas notre connaissance, mais c'est de former, c'est de nous rendre semblables à l'image de Christ. Que les caractères de Dieu soient vus dans le croyant. C'est ainsi qu'on lui rend témoignage. Et quand il y a des situations difficiles dans l'Église, il dit la même chose, il dit que quand on est amené à régler les choses, qu'est-ce que nous laissons comme impression? Il faut absolument être soucieux de l'impression que l'on laisse derrière nous dans le traitement que l'on a des événements ou de nos réactions. C'est une chose qui est d'une extrême importance ici. En d'autres termes, je le dis, je le résume encore une fois, ce ne sont pas nos connaissances, ce ne sont pas nos compétences, ce n'est pas notre habileté argumentaire qui sont les choses les plus importantes, mais notre caractère. Est-ce un, comme le mot a été traduit dans les zones de traduction, le mot douceur, est-ce un caractère raisonnable? Est-ce un caractère raisonnable? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, agir de manière à se distinguer par sa modération dans les rapports que nous avons les uns avec les autres. Et quelqu'un a dit ceci, il a dit que la droiture ou la justesse de nos arguments ne justifie pas la dureté de notre esprit. L'argument peut être aussi juste que je veux. Cela ne justifie pas que je parle avec dureté et que je n'ai pas un esprit de douceur. Que le Seigneur nous montre ces choses et nous fasse les méditer et surtout nous repentir, hein, si tel est notre cas. Et puis l'apôtre Paul dit, il ajoute ici, je pourrais dire un encouragement, il dit le Seigneur, verset 6, toujours, verset 5, le Seigneur est proche. Alors, bien sûr, ça peut faire allusion à une proximité temporelle ou à une proximité, on dit, spatiale, c'est-à-dire qu'il est, il est proche, il est là, il est près de tous ceux qui le craignent. Mais aussi, ça peut être qu'il est proche dans le sens où il vient dans le temps, il revient ici. Un peu comme Jacques avait dit, rappelez-vous, pour encourager les chrétiens, on avait vu ça un mardi soir, à la patience, il dit, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Autrement dit, la proximité du retour du Seigneur doit nous motiver à vivre d'une manière particulière. Alors, les deux sens, bien sûr, peuvent être pris. J'ai un penchant pour le second ici, un peu comme l'apôtre Pierre dit, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » C'est-à-dire, le fait de savoir que Christ revient doit nous motiver à vivre comme Christ nous demande ici de vivre, à nous réjouir toujours dans le Seigneur et à être reconnu pour notre douceur ici. Voilà, je termine en disant, chers frères et sœurs, ceci. Je l'ai dit tout à l'heure, mais que Dieu est plus préoccupé par notre transformation, notre caractère, que par le changement de nos circonstances. Ici, l'apôtre Paul, ici, ne vise aucune circonstance dans ce qu'il dit aux Philippiens, mais il leur dit ici, voilà quel doit être votre caractère. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et que votre douceur soit connue de tous les hommes. Voilà comment vous devez vous distinguer. Notre caractère est ce qui doit changer et pas nos circonstances. Alors ne nous focalisons pas sur nos circonstances, mais sur notre caractère. Comme nous le chantons souvent dans ce cantique où on dit, on demande au Seigneur que te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Que ce soit vraiment notre désir. Et donc, nous pouvons découvrir ce que nous sommes dans les réactions que nous avons ou dans les impressions que nous laissons.
Si quelqu'un nous dit, ah frère, c'était dur, comment te... Ben, ça veut dire que peut-être on a été plus dur qu'il ne fallait et on doit se remettre devant le Seigneur et demander pardon pour ces choses. Ce que l'Écriture nous révèle ici, ce n'est pas pour nous enfoncer, mais c'est pour nous montrer ce que Dieu attend de nous. Et si tel n'est pas le cas, nous devons nous repentir devant le Seigneur. Et voyez, l'évangile, ce n'est pas quelque chose que l'on vit, voilà, on vit le dimanche matin, le mardi soir éventuellement, quelques moments ensemble, on est... Non, c'est une vie ici, et elle doit être vécue dans chaque croyant ici. Elle doit être vécue dans chaque croyant. Et puis j'ajouterai aussi que la joie véritable, ce n'est pas un sentiment qui dépend des circonstances heureuses ou des satisfactions de nos désirs, mais la joie véritable est toujours liée à Christ et au salut qu'il offre. C'est une chose anormale d'avoir des chrétiens moroses. Dans toute l'Écriture, quand on voit des gens se convertir, il y a une joie qui apparaît. Déjà à la fondation de cette église de Philippe, l'un des premiers membres de cette église, c'était le geôlier de Philippe, vous vous rappelez ? Et la Bible dit que quand il s'est converti, qu'il a été baptisé, il a conduit les gens dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Si vous lisez Galates 5, versets 22, 23, n'est-ce pas ? Lorsque l'eunuque éthiopien se convertit avec Philippe, vous vous rappelez, eh bien la Bible dit que quand il a été baptisé, l'esprit a emporté Philippe ailleurs et a dit que l'eunuque a continué son chemin, comment ? Joyeux, parce que vous avez fait attention à cela, et je vous le lis, il dit « Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. » Il aurait pu dire « Ah non, zut alors, Philippe il est parti, je ne sais plus quoi faire, pourquoi, c'est pas normal, c'est pas juste. » Moi, non, la Bible dit « Philippe est parti, la première personne qui lui a présenté l'évangile est partie tout de suite, et lui son cœur était rempli de joie. » Et il continuait son chemin. La Bible dit que le juste doit, psaume 32, verset 11, doit se réjouir. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est une chose normale pour l'enfant de Dieu de se réjouir. Il est appelé constamment à se réjouir. Mais à se réjouir vraiment de choses essentielles, de Christ. Et je voulais terminer avec juste ce verset. Quand les disciples reviennent, voir Jésus, les 70, et puis ils disent à Jésus qui leur a fait donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ils se sont réjouis, ils ont dit « Seigneur, même les démons nous sont soumis. » Et Jésus a dit « Ne vous réjouissez pas. » Il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. » Luc chapitre 10, verset 19, ceux qui veulent prendre des notes. Hein. « Sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de cela, il dit. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Peut-être qu'un jour, ils ne seront pas soumis, les démons. C'est pas. Donc, si vous mettez votre joie dans le succès de l'évangélisation, de la prédication, de ce que vous voulez, de la musique, des performances musicales, etc. Si c'est là que vous mettez votre joie, vous la mettez au mauvais endroit. Jésus dit non, mettez votre joie dans ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors ça, c'est moins spectaculaire. Hein. C'est quasiment invisible. C'est pas palpable. C'est même humiliant pour l'homme qui aime dire « j'ai fait ceci, donc je peux me réjouir ». Mais c'est précieux, ça pousse à plonger ses pensées dans, non pas dans ce que j'ai fait, non pas dans le ministère que j'ai accompli, mais dans ce que seul Dieu peut faire. Inscrire les noms, c'est Dieu qui le fait. Lisez le psaume 87, vous allez voir ça, il dit « j'écris », il inscrit les noms. Un tel est né ici, d'accord ? C'est lui qui écrit les noms, et ça, personne ne peut les enlever. Et ça doit être l'objet de la réjouissance. Donc apprenons et demandons à Dieu de nous aider à mettre ces choses en pratique dans notre vie. Puis je voudrais juste dire un mot peut-être aux personnes qui sont là et qui ne connaissent pas Jésus-Christ. il n'y a pas de véritable joie en dehors de Jésus-Christ. Ces choses que nous avons lues, ce sont pas des choses que l'homme peut produire en lui-même. Je vais être joyeux dorénavant, je vais me réjouir dorénavant, je vais... Non, c'est pas quelque chose qui est, que l'on peut faire en puisant dans nos ressources. D'accord? Ce sont, la joie et la douceur sont le fruit de l'esprit. Et pour avoir l'esprit de Dieu, il faut être un enfant de Dieu, il faut venir à Christ. Il faut venir à lui. Et si vous ne venez pas à lui, eh bien, vous allez au-devant de grandes terreurs, dit la Bible. De tristesse et de douleur à jamais. L'endroit qui est réservé pour ceux qui n'obéissent pas à Dieu, la Bible dit hein, que c'est l'enfer qui est réservé pour Satan et ses anges. Et dans ce lieu-là, c'est des grincements de dents. C'est pas un lieu de joie. Mais celui qui place sa confiance en Jésus-Christ déjà expérimente la joie, comme on a vu pour ses premiers convertis. Il vit dans sa vie chrétienne en expérimentant encore la réjouissance en Jésus-Christ. Et puis un jour, d'accord, il sera dans la félicité, dans la joie complète. Plus rien ne pourra venir, plus nuage sombre ne pourra venir troubler cette paix et cette joie. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses, à placer pleinement notre confiance en lui. Prions. Te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta parole. Et nous voulons non pas regarder aux autres, mais nous regarder à nous ce matin et à voir quelle distance nous sépare de ce que tu attends de nous en tant que tes enfants. Seigneur, donne que nos cœurs obéissent à ta parole. Donne-nous de choisir de nous réjouir en toi, de méditer sans cesse sur ce que tu as accompli, sur qui tu es, sur ce que nous avons en toi, sur ce que nous sommes en toi, sur ce que tu nous réserves. Seigneur, que ta parole puisse faire la joie et l'allégresse de notre cœur. Donne-nous de ne pas nous attarder aux circonstances, mais de constamment plonger nos regards en toi, comme l'apôtre Paul le montre dans cet épître. Et nous te prions aussi que tu nous donnes d'être attentifs à la manière avec laquelle nous traitons les autres, avec la manière avec laquelle nous parlons, même dans les échanges les plus banals, Seigneur. Que tu nous donnes d'être soucieux de refléter ton caractère. Te le demandons au nom de Christ et pour ta seule gloire. Amen.